Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour nous aider à passer cette nouvelle journée dans le bunker, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Olivier Chopin, chercheur spécialiste du renseignement, enseignant à Sciences Po et auteur, notamment avec Benjamin Houdet, de « Renseignement et sécurité » chez Armand Collin et Duno, dont une nouvelle édition est sortie il y a quelques mois. Donc bonjour Olivier.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah de rien, c'est un plaisir. Et vous nous suggérez donc, vous signalez à notre attention, pour passer utilement ce temps de confinement, une série américaine que je ne connaissais pas sur le monde du renseignement, mais c'est ça qui est bien aussi avec ce format, c'est qu'on peut parler à la fois des grands classiques, mais aussi dénicher des pépites. Et c'est une série qui date un peu, puisqu'elle a maintenant 10 ans, et qui s'appelle Rubicon. Alors, je précise au passage qu'elle n'est pas facile à trouver, mais elle est notamment à la demande sur iTunes, la plateforme d'Apple. Alors Olivier, expliquez-nous déjà peut-être le concept de base de la série, puis ensuite on parlera de pourquoi elle vaut le coup et pourquoi ça vaut le coup d'y passer une ou deux journées au fin fond de nos confinements.
Oui, alors c'est une série effectivement qui est pas facile à trouver aujourd'hui et qui n'est pas une série très connue. Elle avait eu le malheur, si je puis dire, de sortir en même temps que, à peu près, hein, au même moment que des séries beaucoup plus connues comme Homeland ou les saisons, je ne sais plus, 3 ou 4 de 24 heures chrono. Alors c'est une série d'une seule saison.
C'est très bien, soit dit en passant, pour les confinements, parce que ça permet de tout faire en une journée. Si on a une journée pour ça, on peut s'y mettre.
Si vous faites le binge-watching, oui, ça prendra une journée maximum. Alors, je recommanderais quand même, et je vais expliquer pourquoi dans un instant, de ne pas la regarder en une fois. Ce serait, à mon avis, très adapté de faire un épisode par jour, peut-être pas un par semaine, mais un épisode par jour, en se laissant un petit peu le temps de respirer entre les épisodes. Et je vais expliquer dans un instant. Donc, il n'y a qu'une saison. Il y a, je crois, 12 épisodes. La série n'a pas marché. Elle n'a pas rencontré son public. Elle n'a pas eu de succès commercial. Et on peut le comprendre parce qu'il y a un aspect un peu raté sur l'objectif principal.
Vous nous le vendez hyper bien déjà, Olivier.
Alors je ne la vends pas bien là, mais je vais expliquer. Bon, en fait, je crois que le scénariste et réalisateur, Paul Kimball, voulait faire en quelque sorte une série qui était un hommage aux grands films de suspense des années 70, 80. Il filme un New York dans des tons très ocre, très sombre, avec quand même beaucoup de contraste et de lumière, mais des tons orange, etc. Ceux qui connaissent New York à l'automne voient très bien la lumière qu'il a essayé de reproduire, avec une série très très lente, avec quelque chose qui fait un peu référence aux Trois jours du Condor de Sidney Pollack, avec Robert Redford et Faye Dunaway, ou la série La Top de John le Carré, mais celle des années 70, de la fin des années 70, avec Sir Alec Guinness. Donc un rythme qui est plus du tout le rythme un peu justement effréné des séries d'aujourd'hui, 24 heures chrono, Homeland, avec un rythme très basé sur des cliffhangers et tout ça. Donc là, il voulait faire quelque chose d'un petit peu méditatif, et puis il voulait raconter une grande histoire de conspiration. Donc un peu comme dans les films que j'ai cités, Les Trois jours du Condor ou All President's Men. Donc il y avait cette idée de revenir un peu. Voilà, les hommes du président, un peu un cinéma de conspiration. Donc, il veut raconter une histoire de conspiration. On se retrouve au début avec un meurtre mystérieux et puis des messages un peu codés. On est quelque part entre Da Vinci Code et Homeland, quoi. Et puis, progressivement, on se rend compte que les scénaristes, pour raconter cette histoire de conspiration, avaient besoin sans doute de meubler un petit peu ou de faire un contrepoint. Ils racontent l'histoire d'une organisation qui s'appelle American Political Institute, qui est une organisation privée, mais qui est liée au renseignement américain. Et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure dans l'écriture du scénario, ça se voit bien, c'est que finalement, l'écriture de ce qui se passe dans cette American Policy Institute, API, est plus intéressante au fond que la conspiration un peu d'origine. Donc
C'est-à-dire
la
que ça
série
détaille
débute.
ces espèces d'organismes paragouvernementaux, mais qui existent vraiment, enfin pas forcément avec les fonctions qu'il y a dans la
Alors,
série, mais...
voilà, alors API, voilà, c'est une petite organisation qui doit compter une centaine de personnes, des intellectuels, des analystes, hein, qui sont réunis en groupe d'analyse. Et dans le vrai monde, oui, ce serait un mélange un peu de RAND Corporation ou de CSIS à Washington, c'est-à-dire ces think tanks qui occupent le secteur parapublic et qui ont des contrats avec le gouvernement américain. Et qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à faire ce qu'on appelle des équipes B, des Team B ou des Red Team, des équipes rouges, c'est-à-dire des gens qui vont reprendre le renseignement américain, le réévaluer et voir si, avec leurs propres moyens, ils confirment ou ils infirment les hypothèses des agences de renseignement.
Ouais, donc ça décrit un fonctionnement qui donc existe vraiment et qui, enfin, ça permet de plonger un peu dans un monde du renseignement qui est toujours évidemment très nébuleux dans une certaine mesure. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu Renseignement et sécurité, votre ouvrage, mais qui disons où il y a plein d'organismes qui s'entremêlent et où donc ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pense parfois, ça n'est pas monopolisé par le secteur public.
Non, alors bon, surtout aux États-Unis, on sait qu'il y a des secteurs, alors pas le secteur politico-stratégique extérieur, il n'est pas privatisé. Le renseignement militaire non plus fait appel à des contractors, à des sous-traitants, mais il n'est pas complètement privatisé. Par contre, on sait que par exemple, lorsqu'ils ont créé la Homeland Security comme un nouveau secteur de l'action publique à partir de 2003, là, concrètement, ils ont fait un choix de s'appuyer sur le secteur privé très fort, hein, dans le vrai monde. Donc le Department of Homeland Security est en quelque sorte une agence un peu comme le département de la justice ou le département de la défense, mais c'est aussi une énorme centrale d'achat qui vise à organiser l'activité qui est basée sur des sociétés privées. Donc c'est vrai que cette série décrit quelque chose d'assez original, qui est rarement au centre des séries d'espionnage ou des thrillers politiques. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la radicalité qu'ils ont eue, parce que pour une fois, le héros principal, qui s'appelle Will Travers, et tous les héros principaux ou secondaires, il n'y a pas d'ailleurs vraiment de héros principaux ou secondaires, parce que ils donnent un peu la parole, ils équilibrent beaucoup les temps de présence à l'écran de tout le monde, mais ces héros-là sont des analystes. C'est-à-dire, ce sont des intellectuels, ce ne sont pas du tout des hommes d'action, c'est des gens qui tiennent un pistolet une fois dans leur vie et encore, et qui ont vraiment pour fonction de produire l'analyse. Et là, en l'occurrence, d'expertiser en quelque sorte l'analyse qui est produite par les services secrets américains. Donc, on les voit tous les matins recevoir des dossiers en provenance de la communauté du renseignement américaine. Et puis, le chef répartit les dossiers dans différentes équipes en disant, aujourd'hui, vous devez fournir une évaluation là-dessus. Ou alors, bah, la CIA n'arrive pas à décider entre ces deux hypothèses. On doit donner notre avis.
Ouais, c'est pas Jack Ryan, quoi. Enfin, ou c'est Jack Ryan dans la partie bureau, 9h-17h, on reste au bureau, quoi.
Voilà, c'est le Jack Ryan des romans, c'est-à-dire il débute comme ça, comme un analyste de la marine et qui, enfin ex-marines, mais qui travaille dans
Donc
le
Jack Ryan,
renseignement
soit dit en
naval.
passant, on va rappeler que c'est le héros, le fil rouge de Tom
Oui.
Clancy dans beaucoup de ses romans, mais qui est aussi évidemment beaucoup passé au cinéma.
Voilà, donc il devient un homme d'action au fur et à mesure, Jack Ryan. Mais bon, voilà, au départ, c'est vrai que c'est un analyste. Donc la figure des analystes, elle existe dans les séries. Dans Homeland, on voit aussi de l'analyse. D'ailleurs, on peut mettre en comparaison des images assez amusantes où on voit dans Homeland, Carrie Mathison mettre des post-it de manière un peu frénétique sur les murs. Et là, dans Rubicon, on verra aussi le personnage principal s'amuser à mettre des post-it et tous les documents sur son mur, dans ce qui est devenu une des iconographies cinématographiques assez courantes aujourd'hui, hein, le mur de post-it de documents avec des petits fils qui relient les points entre eux. C'est une image qu'on va retrouver dans plein d'endroits. Là, ce qui est intéressant, c'est la radicalité de cette série qui vraiment va placer l'analyse et le fonctionnement de l'analyse et au fond de ce qu'on appelle dans le manuel, effectivement, on le décrit ce qu'on appelle couramment le cycle du renseignement. C'est une série qui donne à le voir, ce qui est assez rare, je crois, dans les représentations visuelles.
Très bien, bah alors vous aurez compris que Olivier Chopin vous recommande vivement Rubicon, donc cette série d'espionnage et d'analyse, enfin de, disons de renseignement, où le summum de l'action constitue dans un, est situé dans un mur de post-it collé au mur.
Bah alors, oui,
non,
alors bon, là, j'ai déjà un peu,
ça
mais.
s'active un peu.
Bah, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est le dispositif de mise en scène, me semble-t-il. C'est-à-dire que rendre visuelle une activité intellectuelle, c'est pas facile, parce que l'analyse, c'est une activité intellectuelle. Et là, ils s'en sortent bien, parce qu'ils ont un procédé, justement, qui est un procédé narratif, qui est très intéressant, qui est fait de lenteur, de latence, de répétition des images. Ça ressemble un peu à ce que vous commentiez avec Olivier Schmitt sur le contenu des chars ou des véhicules blindés dans Generation Kill, c'est-à-dire qu'il y a des retours de scènes récurrentes comme ça qui permettent d'étirer le temps, de bien rendre compte que l'analyse se déploie dans un temps très très long, fait de jours, de mois, d'attente, hein, de semaines de travail juste pour élucider un point. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que la série, elle met en visibilité pour le spectateur, ce temps long. C'est pour ça que je recommandais de ne pas le regarder en une seule fois. Si vous le regardez une fois par jour, un épisode, vous allez aussi reproduire cet effet d'attente et cet effet de latence que les héros ressentent parce qu'ils ont lancé plein, plein, plein d'enquêtes, ils attendent des retours, et tant qu'ils n'ont pas les retours, l'élucidation du mystère, ils sont à la recherche d'un terroriste, hein, d'un lone wolf, là, comme on dit, tant qu'ils n'ont pas les retours d'informations, ils ne comprennent toujours pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle permet de mettre en scène visuellement la façon dont l'analyse fonctionne, avec aussi toutes ces failles, toutes ces difficultés. On voit les personnages parfois s'ennuyer, parfois vraiment ne pas comprendre ce qu'ils sont sous les yeux. C'est-à-dire ils voient qu'ils ont tous les éléments sous les yeux, mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment par rapport à tous les travaux qu'on fait sur les séries télé, les films, les romans et la représentation de la menace, c'est que là, la série dit quelque chose d'assez original. Le travail des analystes, le travail des enquêteurs ne dévoile pas la menace qui se déploie en même temps. Ils sont dans une course-poursuite avec des terroristes qui mettent en place un attentat, mais elle construit la menace comme une représentation. C'est-à-dire qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'ils travaillent, ils ont une représentation, une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe. Donc c'est pas un dévoilement, c'est une construction. Et ça, c'est assez intéressant parce que nous, spectateurs, dans cette série-là, on n'a pas accès à tout ce qui se passe non plus. On voit un peu le monde à travers les yeux de ceux qui le regardent. Donc on est replacé aussi dans cette position très inconfortable d'essayer de comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc c'est vraiment intéressant sur toute la partie API, c'est intéressant. Sur la partie de la trame de la conspiration, bon, la série, elle a échoué à la fin, parce que ce qui était leur idée d'origine, c'est une sorte de complot au sein du gouvernement américain où on comprend qu'il y a une société secrète qui mêle ce qu'on appellerait le complexe militaro-industriel d'un côté et ce que Trump appelle le deep state de l'autre, c'est-à-dire des éléments enfouis dans le gouvernement américain mais qui ne travaillent pas pour l'intérêt public mais qui travailleraient pour des intérêts publics privés. Donc ça, on le sait dès le début. C'est comme dans les romans policiers japonais ou comme dans la série Columbo, le meurtre, on le voit au début. Donc le fait que cette conspiration existe, on le sait, il n'y a pas de problème. Et après, la question, ça sera, est-ce que les gens se rendent compte que cette conspiration a un effet ou pas? Donc cette trame-là, elle est ratée. À la fin, ils savent pas comment s'en sortir. Ils essaient de terminer la saison comme ils peuvent, parce que sans doute qu'ils savent déjà, les producteurs, qu'il n'y aura pas de saison 2. Donc ils essaient de tout terminer dans un épisode qui est au mieux un peu bordélique, au pire incompréhensible. Bon, mais ça, c'est pas très important, parce que nous, si on la regarde, c'est pas pour cette trame-là, c'est plutôt pour l'autre histoire, celle de cette API, celle de ces analystes. Et là, il y a vraiment une construction qui est très très fine, qui n'évite aucun des sujets difficiles. C'est-à-dire, il y a une séance sur la torture qui est vraiment intéressante, qui fera vraiment écho au débat qu'il y a eu sur le film Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow. Il y a une séance sur le rapport entre la technologie et la rusticité du savoir, c'est-à-dire est-ce qu'un papier, un crayon ne fait pas mieux que tous nos dispositifs électroniques d'interception, etc., avec une position un peu militante. Et puis, il y a un épisode qui est, je crois, utilisé par tous ceux qui enseignent sur le renseignement à travers la planète, où on voit le directeur de l'API, Truxton Spengler, aller à Washington justifier les budgets qui lui sont alloués. renégocier les contrats. Et là, il y a une scène géniale avec une cravate, je n'en dis pas plus, vous regarderez la scène. D'ailleurs, c'est une scène qui fait assez facilement écho à une scène dans un film de Claude Lelouch qui s'appelle Homme-femme mode d'emploi, où Tapie met une cravate ignoble dans une réunion, et Tapie décide que celui qui critiquera sa cravate dans la réunion sera son successeur. Et donc là, il y a un procédé un peu similaire dans cet épisode-là, où on voit qu'autour d'une cravate, le gars fait une démonstration de ce qu'est l'intérêt du renseignement et l'intérêt de l'analyse. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, il ne faut pas dire ce que les décideurs veulent comprendre à un moment donné, il faut dire la vérité. Et quand on sait à quel point la vérité telle que le renseignement est censé la produire est mise en cause aujourd'hui, notamment dans l'administration Trump, bon, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à regarder. Donc c'est pour ça que même si ce n'est pas une série qu'on recommanderait pour sa qualité narrative propre, parce qu'elle a des bons côtés et des mauvais, c'est une série que je recommande vraiment pour essayer de comprendre ce qu'est le renseignement en tant que produit intellectuel.
Très bien, et ben merci beaucoup Olivier Chopin. Donc je rappelle cette série donc Rubicon qui est disponible sur l'Apple Store à la demande. Merci beaucoup et à demain tout le monde.